CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio BCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas revenir sur le conseil municipal de mars dernier.
Oui, qui s'est déroulé dans un contexte national particulier et porteur d'un certain nombre d'inquiétudes.
Jean-Aubert Dufaux avec la chronique Terre à Terre. À l'heure où l'on nous parle de limiter, voire de bannir dans certains cas, les emballages plastiques, les Chavillois auront-ils la possibilité dans les années qui viennent de renouer avec la tradition du verre consigné ?
En effet, bonjour Jonathan. Face aux enjeux de l'économie circulaire et à la loi anti-gaspillage de 2020, le gouvernement français envisage un retour de la consigne sur les emballages en verre d'ici 2 ans. Donc l'objectif est d'atteindre 10% d'emballages réemployés d'ici 2027, conformément à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire.
Et enfin, on terminera l'émission avec la chronique à portée de parole où nous recevons pour la deuxième fois Isabelle de Dieu du Café associatif des Trois Marronniers à Sèvres.
Voilà, et qui viendra nous faire un petit bilan des activités de l'an dernier et porter les nouveaux projets.
Tout de suite, la chronique du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique Couteau, le conseil du lundi 25 mars a principalement traité du budget pour 2024. Que faut-il principalement en retenir ?
Alors, juste avant de répondre à cette question, je voudrais faire un rappel. Bientôt, ce sont les élections européennes le 9 juin. On en parlera dans une émission suivante. On sent qu'un certain nombre d'enjeux sont importants. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire jusqu'au mercredi 1er mai, si vous le faites en ligne, ou jusqu'au vendredi 3 mai en mairie. Donc ça, c'était un appel citoyen. Alors, sur le conseil du mois de mars, il comportait 24 délibérations, 20 délibérations sur des aspects budgétaires et financiers, une sur les subventions aux associations, deux sur des conventions de partenariat ou de renouvellement de partenariat avec la MJC d'une part et une avec l'ONF pour l'entretien et l'aménagement du parc forestier de la Maradan. Et enfin, une délibération sur la révision du dispositif d'aide financière en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat. Pour cette dernière, les aspects nouveaux traite des aides à la rénovation énergétique pour les copropriétés et un document est disponible qui fixe les conditions d'attribution des aides territoriales. Alors le budget 2024, il s'établit en arrondissant à 47,9 millions d'euros, dont 38,3 millions en fonctionnement et 9,5 millions en investissement. Il intègre l'excédent de fonctionnement de 4,4 millions de 2023 et le déficit d'investissement de 76 000 euros. Tous les documents sont sur le site de la mairie. En fonctionnement, les charges de personnel représentent en gros 50% du budget. L'autre moitié du budget de fonctionnement couvre les secteurs éducation, jeunesse, loisirs, sport pour 32% des crédits, l'administration générale pour 18%, la famille, l'action sociale et la santé pour 18% également, et l'aménagement, le cadre de vie et l'ordre public pour 14%. En investissement, les crédits sont programmés pour les différents travaux d'aménagement, de rénovation des bâtiments publics ou l'acquisition de matériel informatique ou autre pour les services publics de la ville. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'invite les auditrices et les auditeurs qui souhaitent une information plus complète à lire le PV du Conseil. Parmi les nombreux votes de cette soirée, notre groupe s'est abstenu sur la fixation des taux de contribution directe pour 2024 qui seront revalorisés de 3,9% par augmentation de la revalorisation forfaitaire nationale de la valeur locative des bases. Et nous avons voté contre l'augmentation des tarifs des services publics locaux fixés en moyenne à 3,9%.
Alors tu parlais d'un contexte national particulier et inquiétant lors de ce vote du budget, pourquoi ?
Alors nous avons déjà évoqué lors d'une émission précédente la suppression de 10 milliards de crédits à différents ministères imposés par le gouvernement et annoncés brutalement par Bercy le 22 février dernier. Depuis, les prévisions en matière de déficit public s'annoncent de plus en plus sombres. Bercy tablait sur 4,9% du PIB. En fait, le déficit annoncé par l'INSEE est de 5,6%. Pour réduire ce déficit, il n'y a que deux solutions, augmenter les recettes ou réduire les dépenses. Les choix du gouvernement ont été réaffirmés. Ce sera une réduction drastique des dépenses de 20 milliards supplémentaires d'économies pour 2025. Et dans le viseur, ce sont les dépenses sociales et les collectivités territoriales. Le gouvernement annonce déjà une nouvelle réforme de l'assurance chômage et envisage la suppression de certaines prestations sociales. Il a été demandé, rapporte l'Association des maires de France, il a été demandé aux collectivités territoriales, comment allez-vous ralentir les dépenses ? Il n'est tenu aucun compte que les collectivités sont obligées de présenter un budget en équilibre, elles, et que l'effort du bloc communal a commencé depuis 2010 avec le gel, puis la baisse des dotations, qui ont généré au niveau national 71 milliards d'euros d'économies pour l'État. Par exemple, pour Chaville, c'est plusieurs millions de moins en dotation depuis 2010. Et surtout, il n'est tenu aucun compte que la proximité de l'échelon communal permet de mesurer les besoins de la plus grande partie de la population, en particulier dans les domaines de la protection et des aides sociales, du logement, de la santé, des besoins à tous les âges de la vie. Les dépenses des collectivités en fonctionnement comme en investissement permettent de faire vivre le service public local et créer, de surcroît, une quantité d'activités économiques. Aussi, les choix gouvernementaux ont des conséquences sur les capacités des communes à mener une politique de service public satisfaisante.
Merci beaucoup Monique pour cette synthèse. Je rappelle l'enquête publique sur le PLUI du 27 mai au 28 juin. Et d'autre part, nous avons appris une suppression de classes à Ferdinand Buisson, deux classes de maternelle menacées. Information à suivre auprès des fédérations de parents d'élèves et des enseignants. Nous en reparlerons. Tout de suite, la chronique Terre à Terre.
Avec Jean-Aubert Dufaux.
Allez, c'est parti. Jean-Aubert, la consigne. Derrière ce mot se cache une filière qui pourrait en effet participer à la redynamisation du secteur de l'emploi à travers la filière écologique. Mais avant d'aborder ce point, qui est tout de même à nuancer, pourrais-tu nous faire un petit historique de la consigne en France ?
Abandonnée par l'État en 1953, qu'il a jugé entre autres trop coûteuse à maintenir, à partir de cette date, elle a été déléguée au secteur commercial privé. Donc jusqu'à la fin des années 80, entre autres, la consigne était encore pratiquée en France, en particulier chez certains cavistes qui récupéraient les anciennes bouteilles de vin, les retraitaient et les utilisaient entre autres pour distribuer leurs cuvées en vrac. Donc les consommateurs payaient une petite somme supplémentaire pour l'emballage, qui leur était restituée lorsqu'ils rapportaient la bouteille en magasin. Depuis, à l'exception du secteur de la restauration, la pratique a été abandonnée avec la pression du lobby de l'emballage plastique, qui lui-même est lié à la filière pétrochimique.
Alors est-ce que c'est un phénomène local ou cela a-t-il touché l'ensemble des pays européens ?
Alors la majeure partie des pays européens ont hélas emprunté le même chemin. Cependant, il existe une exception. L'Allemagne et en France une région, l'Alsace. Alors l'Alsace et l'Allemagne ont une grande partie de leur histoire en commun et ont une forte tradition de la réutilisation des emballages. Alors ça peut en étonner certains, mais cette tradition, elle remonte à l'époque médiévale où les emballages en verre étaient réutilisés de nombreuses fois. Alors il est à noter que l'Allemagne a mis en place également la consigne pour les canettes en aluminium. Car l'aluminium n'est pas facile à recycler sans perte et surtout extrêmement nocif pour le vivant une fois réduite à l'état de particules.
Alors au début des années 90, s'est mis en place le recyclage des déchets dont le verre. Peux-tu nous expliquer en quoi le recyclage du verre serait moins vertueux que la consigne ?
Alors en ce qui concerne le recyclage des déchets, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que les matières plastiques peuvent contenir des PFAS, ce qui ne sera bientôt plus le cas, mais aussi des microparticules. Et leur transmission aux aliments peut se faire après une semaine de conditionnement. Donc il en est de même à la combustion, car il faut savoir que seuls environ 20% des emballages plastiques sont réellement recyclables et que leur combustion ou dégradation produit des microparticules dangereuses. Alors en ce qui concerne le recyclage du verre, il est moins polluant, car le verre est réutilisable à l'infini. Mais cependant, il faut beaucoup d'énergie pour refondre celui-ci et également lui adjoindre de nouveaux apports de silice, ce qui en fait une opération qui n'est pas très économe. Alors, le verre consigné, lorsque cela est possible, il s'agit donc essentiellement de bouteilles, est assez simple à faire. Donc, de plus, la création des usines de reconditionnement est facile et rapide à mettre en place et peu énergivore.
Donc, si je te suis, la consigne est préférable au recyclage du verre.
Clairement. Mais de par la spécificité de certains contenants, il n'est pas envisageable d'adopter la consigne pour chacun d'entre eux aujourd'hui. Alors, on peut considérer que le recyclage du verre perdurera encore en parallèle pendant de nombreuses années.
Alors, d'un point de vue emploi et avenir du secteur du verre, alors ?
Alors, l'industrie du verre est en pleine mutation et va devoir s'adapter à ce défi que représente le retour au cycle vertueux de la consigne. Mais elle a déjà commencé et cela crée même de l'emploi au niveau local, car certaines communautés de communes pensent déjà à se doter de cet outil de consigne, donc collecte et reconditionnement des bouteilles en verre. Mais ces processus sont une chose qui ne doivent pas cependant substituer aux bons gestes au quotidien. Pour ma part, je réutilise mes bocaux et terrines en verre pour confiture et pour faire des pâtés. Cela évite de mettre du verre non consignable, des couvercles et des joints en caoutchouc au recyclage ou à la poubelle. Hein. Donc, et puis, je peux vous dire que le climat, il va vous en remercier grandement.
Mais alors, du coup, il y a quand même quelques initiatives qui sont prises où on demande à des gens de ramener des bocaux en verre, des bouteilles en plastique.
Oui, il y a des entreprises qui se sont créées en France, comme Le Fourgon, qui sont des initiatives privées avec des subventions municipales, hein, donc de certaines municipalités, donc, je ne sais plus à quel endroit exactement en France, et dans toute l'intercommunalité, en fait, cette entreprise va rechercher les bouteilles, et en particulier bouteilles de vin, bouteilles d'eau, et donc moyennant quelques centimes d'euros, donc à la récupération de la bouteille, ensuite les réformer, permettre leur réutilisation pour donc l'industrie du vin ou l'industrie de l'eau. En particulier, ce sont surtout les restaurateurs encore qui sont très, très consommateurs des bouteilles en verre, un contenant en verre pour des raisons d'hygiène, mais également parce que depuis très longtemps, ils ont une stratégie et une politique de respect de l'environnement vis-à-vis de leurs clients. C'est également un argumentaire commercial fort.
Oui, alors moi j'avais bossé un peu là-dessus aussi et je sais que le problème souvent de revenir un peu en arrière comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui se faisait dans les années 50, 60 avec le lait et tout ça, en fait aujourd'hui c'est très compliqué parce que les gens, lorsqu'ils vont dans les magasins, en fait ils se baladent pas avec des bouteilles de verre plein le coffre ou encore moins sur le vélo, et donc ça fonctionne pas et on finit par finalement avec, vous savez, il y a les systèmes de vrac et tout ça, au final il y a toujours des emballages qu'on peut prendre juste à côté et qu'on ramène chez soi et qu'on ramène pas en fait au magasin. Donc c'est assez compliqué ce système là en fait c'est toute une organisation finalement qu'on n'a plus le temps d'avoir.
C'est pour ça qu'il y aura il y a une compensation financière, enfin une incitation financière à le faire. D'accord. Donc évidemment il y aura une taxe en fait sur les contenants et pour récupérer en fait le montant de cette taxe sur les bouteilles en verre, on pourra le récupérer grâce à la consigne. Donc il y a dans certaines grandes surfaces il y a déjà des appareils automatiques qui permettent de déposer la bouteille en verre, et cette bouteille permet de retour par bon d'achat. Il y a tout un système qui commence à être mis en place. Ça fait partie aussi de l'éducation, et il faut savoir que l'Allemagne et l'Alsace ont toujours maintenu ce système. Alors c'est un système qui a toujours été soutenu par la politique de l'État. Donc en France, c'est encore une fois pour des raisons financières que l'État n'a pas voulu suivre, et puis également des raisons politiques. Mais on aurait peut-être dû de maintenir en fait à travers le temps la consigne, parce que la consigne fonctionnait bien. Moi, j'ai encore souvenir dans mon enfance, en particulier les cavistes Nicolas récupéraient les bouteilles de vin et en échange, on avait droit à ce qu'on appelait la cuvée maison, qui était une cuvée de vrac qui était embouteillé dans ces bouteilles après des bouteilles de qui avaient été de réutilisation. Ça marchait très bien et pour eux c'était une économie quand même assez assez conséquente. Tout le monde était gagnant. Mal à comprendre l'abandon est vraiment le fait de lobby très très fort du secteur pétrochimique. Hein. C'est vraiment ça qui a précipité la bascule dans les années 80.
Merci beaucoup Jean-Aubert une nouvelle fois. On passe tout de suite à la chronique à portée de parole.
de parole avec Diane Lafranc.
Bien, ben, bonjour Isabelle, nous sommes ravis de te retrouver. Tu étais venue nous présenter le café associatif des Trois Marronniers à ses débuts. C'est une belle aventure qui se poursuit. Est-ce que tu peux rappeler la date de création, l'originalité du lieu, l'adresse, voilà, déjà, pour commencer.
Bonjour, ben, c'est très gentil de m'inviter, d'abord. Et de me permettre de parler un peu de notre association, de notre café, qui donc est un café associatif qui a commencé l'année dernière, le 1er avril, c'était pas une blague, et voilà, et on a eu un mois d'interruption au mois d'août, et on a continué jusqu'à fin novembre, donc c'est, voilà, c'était pas mal. On s'attendait au départ à avoir peu d'adhérents, puisqu'on fonctionne avec des adhésions, et finalement on en a eu énormément. Donc ça nous a beaucoup d'abord surprise, ensuite donné beaucoup de travail. Donc c'est une association qui a été fondée par trois personnes, Agnès, Caro, qui a été remplacée par Coralie, et puis moi-même. Et on a décidé de faire ça, parce que moi j'habite dans un ancien café, et c'était assez rigolo.
De le transformer.
Enfin, ouais. Il n'a pas été transformé, c'est une très vieille maison. Mais depuis 30 ans que j'y habite, ça fait presque 30 ans que j'entends des gens frapper à la devanture en demandant si c'est ouvert. Donc je me suis dit, quand je travaillerai moins, peut-être...
Ça sera ouvert.
Voilà, peut-être qu'on essaiera d'ouvrir. On est ouvert que le week-end, hein, sinon c'est vraiment trop difficile, parce que c'est quand même pas notre métier. Et voilà, ça a drainé beaucoup de gens et beaucoup de choses se sont passées l'année dernière, on va dire. Et voilà.
Il faut dire qu'il y a un beau jardin aussi, où il est possible de prendre un pot. Enfin bon, c'est un lieu qui a une âme et c'est vraiment agréable.
Hein. Oui, c'est une maison qui date à peu près des années 30 et qui a en son rez-de-chaussée un ancien bar, une ancienne salle de café que j'ai gardée le plus comme elle était, j'imagine. Voilà, donc les gens rentrent par la devanture, passent dans le petit café et puis de là passent dans la cour qui est une cour assez grande avec trois grands marronniers.
D'où le nom,
le café des Trois Marronniers. Et on a plein de petites tables avec des nappes à carreaux rouges et blanches pour faire un peu genre. Mais voilà, on s'y retrouve.
Bon, mais en tout cas, c'est très sympa. Moi, je l'ai testé plusieurs fois et j'y ai passé des très bons moments. Alors, tu as évoqué peut-être déjà un peu le fonctionnement. Est-ce que tu peux faire un petit bilan des activités qui s'y sont déroulées depuis sa création, depuis un an ?
Alors, au départ, les activités, c'était censé être un café dans lequel on offrait évidemment des boissons, comme on est une association à but non lucratif et on n'a pas la licence 4, c'est donc moins de 18 degrés, ça veut dire des bières malgré tout, et puis du vin, et puis sinon plein de jus de fruits, du café, thé, etc. Et voilà, et peu à peu on s'est mis à offrir, parce que les gens nous demandaient des tartes, des quiches, des salades, et puis peu à peu on s'est aperçu que les gens venaient manger. Ce qui nous a posé des problèmes, parce que c'est compliqué de faire à manger pour de plus en plus de gens chaque week-end. Et voilà, donc ça a d'abord été ça, on va dire. C'est-à-dire les gens venaient. Au départ, c'était pour mettre du lien dans le quartier. Et finalement, il s'est avéré que des gens sont venus depuis assez loin, même de Paris, pour être dans cette ambiance un peu sympa.
Oui, son succès prouve que ça correspondait à un besoin, à quelque chose.
Oui, on a eu 900 adhérents l'année dernière. On ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin, 600 adhérents à l'année et puis 300 de plus à la journée, parce qu'on a fait une possibilité d'adhérer de manière différente, soit à la journée pour les gens qui passaient, soit à l'année, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de novembre. Voilà, on continue la même recette. Et on a été dépassés par les événements. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Quoi.
Vous retrouvez les mêmes clients, vous les revoyez?
Oui. Il y a une espèce de base d'habitués, de gens qui sont contents. Et puis, c'est très compliqué à décrire, en fait, parce qu'il y a des gens qui passent, qui ne connaissent même pas la maison, et puis qui viennent du bois, parce que le café est près du bois, c'est à l'entrée du bois.
Oui, oui.
Voilà, donc des gens.
Vous savez d'où ils viennent en général ? C'est des Sévriens, Sévriennes ?
Non, je vous dis, ça peut venir de Paris.
Ah oui ?
De Ville d'Avray, Chaville, évidemment, les banlieues alentours.
Oui, bien sûr.
Mais bon, beaucoup de Sèvres, évidemment.
Oui, oui.
Oui, mais c'est vrai. Nous, de Chaville, on a été plusieurs à y aller.
Oui.
Donc,
On fait la pub, nous.
Alors, et
c'est gentil.
Et il faut dire en plus que c'est très facile d'y aller par les bois.
En partant depuis Chaville,
on arrive comme le café est à la limite pratiquement de Chaville et de Sèvres. Mmh. Enfin, par les bois, c'est vraiment la limite. Donc, ça fait une belle balade et voilà, et c'est sympa de venir.
On a mis des panneaux d'ailleurs tout le long.
Les
trois marronniers, 500 mètres, 300 mètres, 200.
C'est ça.
Donc, oui, bon. Alors, est-ce que donc en termes d'activité autre que celle d'être effectivement
alors au départ,
où
c'était
manger,
simplement offrir un verre, on peut dire, et puis un petit peu des tartes, des trucs comme ça, et puis peu à peu les gens étaient intéressés et proposaient leur service, enfin leur passion. Alors, on a commencé à établir des conférences, donc on a eu une conférence sur les oiseaux par exemple, une autre sur les forêts, une autre sur les abeilles, et les gens étaient très intéressés, c'était agréable. On fait ça l'après-midi, on fait une petite pub avant, on met ça sur internet, sur Instagram, parce qu'on a un site Instagram, et c'était formidable. Bon, après on a essayé de faire les jeux, par exemple des jeux de société, et là on a fait ça une seule fois, on n'a pas eu le temps, parce que
compliqué.
Puis finalement, il y a tellement de choses. En revanche, on a eu beaucoup de musiciens qui se sont proposés.
Ah,
et
sympa,
là, c'était formidable. On a commencé des concerts, concerts de jazz, concerts de musique irlandaise, on a concerts de musique classique, on a eu Beethoven, on a eu un trio, un quatuor à cordes, un duo piano-violon, enfin des gens qui
vous
se
les trouvez où ? Pardon, vous les trouvez
des gens qui viennent, qui disent, ben voilà, moi je suis musicien, est-ce
parce qu'il y en a un paquet ici à Chaville là, qui font ça.
Oui, bienvenue, parce que je trouve que c'est super. Et du coup, on a parfois rempli la cour, il y avait presque 100 personnes dans la cour.
Ouais, non,
c'est
bien.
On a eu des moments... Ouais. Alors on fait au chapeau, évidemment, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas...
Oui, bien sûr, mais c'est
pas riche, donc
c'est le côté
chapeau,
le côté un peu militant d'une association, à la fois de ceux qui l'organisent, mais ceux qui participent.
C'est
très bien comme ça.
On a été très surpris. Après, ce que je voulais aussi, je voulais quand même insister sur le fait que on essaye de faire un café associatif qui privilégie plutôt les commerces de proximité. Par exemple, on offre des bières, et les bières, on n'a pas voulu acheter des bières au supermarché. Ça, c'est un peu notre petit luxe, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus cher, sans être non plus hors de prix. Mais on a choisi de vendre des bières artisanales, donc on a pris d'abord... une microbrasserie qui est à Sèvres, qui s'appelle Rive Droite, Rive Gauche. Mmh. Et puis, on a par hasard trouvé qu'il y en avait une à Chaville,
les trois lézards.
Et alors, ça, c'est un succès fou.
Très bonne
sa bière. C'est des gens formidables.
Oui, oui.
Donc on offre ces bières-là, de ces deux microbrasseurs, c'est formidable. Pour les légumes, alors on essaye d'être bio, donc on a pris pareil Chaville, Nature en Ville, parce que c'est des gens super. Et puis on offre des planches de charcuterie et de fromage qu'on achète au marché de Sèvres, pareil aux petits commerçants, Sophie à la charcuterie et puis et Aimé au fromage. Donc ils nous font des prix. Enfin tout ça est très agréable parce que on a l'impression quand même que qu'il y a une entraide aussi.
Oui, il y a un lien de solidarité et un engagement.
C'est
ça. Écoute, c'est bien. Bon, alors, donc, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Et alors, quels sont vos nouveaux projets pour cette année ?
Alors, nouveaux projets, on s'est aperçu qu'on était un peu débordé par la cuisine. C'est-à-dire, on va faire moins de cuisine. On va toujours offrir des planches de charcuterie, de fromage et quelques quiches et un dessert ou deux tous les week-ends. Mais pas les plats qu'on pouvait offrir, parce que c'est trop compliqué. Donc les plats, ça sera une fois par le premier week-end de chaque mois. Il y aura une constance de charcuterie de fromage, comme je disais, de quiche, mais sinon on aura une vraie cuisine, un plat un peu sophistiqué, seulement le premier week-end de chaque mois.
D'accord. Qu'est-ce qui était compliqué ? C'est la gestion ? C'est économiquement, ça valait pas le coup ?
Bah, c'est-à-dire, les gens nous proposaient très gentiment, une dame nous a proposé, moi je peux faire mon plat, la blanquette de veau, qui est, oui, un plat, qui est mon plat favori, j'ai dit très bien, pour combien de personnes dois-je le faire ? Elle me demande et je dis bah, au moins 30, 40 personnes, peut-être plus.
Oui.
Et là, bah, c'est très compliqué pour les gens de faire.
Oui.
Et en plus, il faut que ça soit pour l'hygiène.
Bah, c'est un métier, quoi.
Voilà. Et pour l'hygiène, il faut qu'on est obligé de faire ça dans la cuisine du café.
Ouais,
c'est-à-dire, on
ne
peut pas se permettre de faire
venir
des
avec
choses.
Ses plats,
de genre, voilà, ça, c'est normal.
Oui.
Donc, tout ça est un peu compliqué. Ça fait beaucoup de cuisine. Voilà. C'est. Alors voilà, donc on va réduire un petit peu.
Il n'y a pas une réflexion autour des repas que vous pourriez justement maîtriser, enfin bon, parce que ça se fait des fois, hein, je veux dire, dans des restaurants qui reçoivent 30 assiettes, évidemment, ils ne vont pas faire des plats très cuisinés, mais il y a d'autres astuces, quoi, qui permettent quand même je dis n'importe quoi, mais des salades de pâtes, des choses comme ça, qui permettent de nourrir, en fait, au moins à minima.
Alors, oui, on n'a jamais fait salade de pâtes, mais on a fait des grosses salades, tomates, mozzarella, des trucs comme ça.
Ça fonctionne.
Ça va,
parce que
oui,
blanquette de veau, c'est quand même une sacrée.
Oui, mais, vous
savez,
c'est une chose plus une chose plus une chose plus une chose.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez des quiches différentes, après des tartes et puis des crèmes brûlées.
Oui,
et puis en plus, il faut rajouter un plat. Alors, bon, quand c'est saucisse de morteau, lentilles, ça va, parce que c'est un gros plat qu'on fait.
Oui, c'est ça que j'imaginais.
Mais quand c'est par exemple, quelqu'un est venu faire un dal, c'était une sacrée préparation.
Bah oui.
Vous voyez, des plats comme ça. Alors, il y aura certainement un couscous aussi.
Parce qu'il est réputé, votre couscous. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent.
Ah.
Bon, tant mieux. Et voilà.
Donc, pour l'instant, peut-être, il n'y a pas encore de conférences de prévues ou de groupes de musique.
Alors, il y a des concerts, oui, qui sont déjà prévus.
D'accord.
Des gens nous ont demandé des concerts classiques. Oui, on a par exemple un quatuor qui va jouer Rossini bientôt, enfin assez vite, je crois, genre la troisième semaine. On a encore la musique irlandaise, enfin les mêmes gens sont censés revenir, et puis d'autres qui se sont proposés. Je ne sais pas s'il y en aura toutes les semaines, parce que presque on pourrait faire ça tous les week-ends, tellement on a des gens qui nous ont demandé.
Des propositions.
Et ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa.
Bon, bah écoute, ça fait déjà beaucoup de choses, hein,
oui,
je pense.
Oui.
Alors, quels seraient vos besoins ? Donc, tu peux peut-être nous parler de la lettre. Enfin, comment on peut adhérer ?
Vous venez ?
Alors, on vient, ou est-ce qu'il y a un moyen aussi par mail, enfin,
contact ? Vous venez, c'est quand vous décidez de venir boire un verre, ou vous venez, et puis immédiatement vous adhérez.
D'accord.
C'est-à-dire, on vous demande votre mail pour vous tenir au courant des activités. On met ça sur. Maintenant, on va mettre ça cette année sur ordi, mais la dernière fois, c'était sur des petites cartes qu'on gardait, nous, vos noms, même pas vos téléphones, juste vos mails. Voilà, vous adhérez comme ça. C'est facile. C'est à la journée, c'est 1 €. Donc c'est facile, 1 €.
Voilà, donc on peut adhérer à la journée,
ou à l'année. Là, ça sera 7 € certainement pour l'année.
Oui, bah oui, il faut que vous preniez en compte aussi les augmentations de prix qu'on a subies.
Oui. Alors on essaie d'offrir des plats pas trop chers.
Hein. Oui. Oui, non, mais de toute façon, oui, c'est ça. Ça fait partie aussi de la réflexion.
On fait pas de bénéfices
que vous conduisiez tout à l'heure.
Voilà, on n'a pas le droit de faire des bénéfices. Et quand il y a des bénéfices, ils sont reversés au café. C'est-à-dire, on a acheté cette année, grâce à tous ces adhérents, on a acheté une machine à laver la vaisselle, un frigo, voilà.
Bon, bah, c'est bien. Voilà. Eh bien, écoute, on a hâte d'y retourner.
Eh bien non, il y a une chose que tu ne m'as pas demandé.
Qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé ?
Quels sont mes besoins ?
Mais quels sont tes besoins, sacré bon sang ?
D'avoir des gens qui nous aident, et pas seulement qui viennent, qui nous aident.
Donc, qui viennent éventuellement passer quelques heures dans le week-end, ou qui fassent des courses.
Une fois de temps en temps. Pas tellement les courses, ça encore,
non.
On est assez organisé, mais plutôt qui viennent nous aider à servir, à discuter avec les gens, voilà, mettre les tables en place, éventuellement des choses comme
d'accord.
ça, des petites choses, mais sympas aussi, qui font que les gens peuvent se parler et échanger.
Donc, bon, bah écoute, c'est, voilà, j'espère que tout le monde a entendu, voilà, que vous aviez, pour le café très sympa, qui est un café voisin de Chaville, besoin de petits coups de main, voilà.
Voilà.
Et en attendant, bah écoute, on va s'y retrouver rapidement pour prendre un pot, déjà, un pot de redémarrage de l'activité.
Donc on ouvre le 20 avril.
Voilà, ouverture le 20 avril.
Merci beaucoup, merci Isabelle de Dieu pour avoir parlé de votre association. Merci. Quelques informations quand même. Donc vous vous trouvez donc au café, le café se trouve quartier
De la Châtaigneraie.
Moi j'ai 20 rue des Batillers à Sèvres. D'accord. Ensuite, donc café avec terrasse jardin ouvert les samedis et dimanches de 10h à 19h, c'est toujours bon.
Non. C'est voilà. 10h30 à 20h30.
D'accord, 10h30 à 20h30, donc il faudrait faire gaffe sur les flyers. 10h30 à 20h30. Et le mail café-les-trois-marronniers@gmail.com, café-les-trois-marronniers tout attaché. Et il y a même un Instagram café. Alors ça c'est _les_3_marronniers au pluriel. Merci beaucoup, merci Monique Couteau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain à 8h.